Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une star dans le milieu, mais lui n'aimerait certainement pas qu'on l'appelle comme cela. Devenu en quelques années une figure, un symbole, jeune prêtre fidèle à la tradition mais dans le coup, le blog qu'il a cofondé, Padre Blog, est l'un des blogs de référence dans la cathosphère, comme on dit. Ce jeune prêtre à la belle gueule, c'est le père Pierre-Hervé Grosjean. Pour certains chefs de file de la jeune génération qui monte dans l'église, une icône un peu trop réac pour d'autres. Et pourtant, si mon invité de ce matin était plus compliqué que cela, portrait. Pierre-Hervé Grosjean, je vais y arriver, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accorder cette interview à l'occasion de votre passage à Toulouse. Alors au début de cette émission, je propose un peu de faire connaissance avec vous, parce que certains vous connaissent très bien, mais pour d'autres, peut-être vous êtes encore un inconnu. Donc vous êtes tout simplement un prêtre du diocèse de Versailles. On sait à quel point Versailles a une place un peu particulière dans le paysage catholique français. Je ne sais pas si vous deviez vous présenter, vous diriez quoi, un prêtre du diocèse de Versailles tout simplement ?
Un prêtre catholique d'abord, et un curé de paroisse. C'est vraiment le cœur de ma mission, c'est d'abord d'être curé de paroisse. Et le curé d'une paroisse, c'est un peu le père d'une paroisse. C'est vraiment là où s'exerce la paternité du prêtre. Et c'est ce qui fait ma première joie comme prêtre.
Alors c'est vrai que j'ai oublié de préciser, oui, je suis non pas ému, mais enfin impressionné par votre venue. Non, je vous taquine. Vous êtes aussi vous êtes curé donc de Saint-Cyr-l'École, donc dans le diocèse de Versailles, et auteur, c'est pour ça que je vous reçois ce matin, donc d'un ouvrage qui s'appelle Catholique, engageons-nous, paru aux éditions Artege. On va en parler tout au long de cette émission. Donc vous êtes un prêtre de paroisse, vous dites vous êtes vous exercez d'une certaine manière, vous dites la paternité de Dieu. Vous êtes né donc le 27 janvier 1978, donc vous avez 38 ans comme vous avez dit. Peut-être on va pas refaire toute votre enfance parce que c'est pas évidemment l'objet de l'émission, mais dites-nous cette vocation de prêtre, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment ça vient aujourd'hui d'être prêtre? J'imagine qu'on vous a posé la question sur tous les plateaux de télé sur lesquels vous êtes allé.
Elle est venue, en tout cas ma vocation à moi est venue assez naturellement. J'ai eu, je pense, trois grâces. La première, c'est de naître dans une famille chrétienne où la foi a été transmise assez naturellement. Et je mesure aujourd'hui ce que je dois à mes parents. J'ai pas toujours été docile, mais je leur rends grâce et je leur en suis reconnaissant d'avoir transmis cet amour de l'Église aussi. Parfois, il m'arrivait de râler contre mes curés quand j'avais 15-16 ans, que je ne trouvais pas assez comme ci ou comme ça. Et mes parents m'ont toujours rappelé que derrière le prêtre, derrière l'homme, avec ses limites et ses défauts, ses qualités, il y avait un prêtre qui avait donné sa vie pour nous et pour Dieu. Ils m'ont appris à respecter cette figure du prêtre. La deuxième grâce que j'ai eue, c'est que j'ai fait du scoutisme, et ça a été pour moi une vraie école du service et de la joie dans le service. J'ai compris assez vite en fait que il y avait beaucoup de joie à donner sa vie pour les autres, à mettre sa vie au service des autres. Dans le scoutisme, on confie à des jeunes, des encore plus jeunes, pour les faire grandir, et ça a été une expérience très belle pour moi. Et puis un troisième cadeau de Dieu, j'ai croisé sur ma route des prêtres qui m'ont montré la beauté du sacerdoce. J'ai en particulier un jeune prêtre qui est un aumônier scout qui m'a beaucoup marqué par sa joie d'être prêtre, par sa façon de célébrer.
Vous
par
en
sa
parlez
façon
d'ailleurs
de,
dans votre bouquin, je crois.
Tout à fait, et qui voilà, pour moi a été, sans qu'il s'en rende compte forcément sur le moment, mais a été un vrai père qui a su m'accompagner tout en me laissant très libre. Et c'est à son contact qu'assez naturellement la question s'est posée, pourquoi pas moi? J'avais envie de mettre ma vie déjà au service d'une grande cause.
Donc à l'adolescence?
Oui, à 14-15 ans la question a été suscitée. J'avais envie de... Je me demandais, est-ce que j'allais servir mon pays? Est-ce que j'allais servir une grande cause, telle ou telle cause? Est-ce que j'allais... Et puis tout d'un coup, la question est venue, pourquoi pas servir Dieu lui-même? Et puis le salut de ce monde, le salut des âmes. Et cette idée s'est installée très simplement, très naturellement, tout doucement dans mon cœur, jusqu'en arriver à une certitude intérieure. Et je suis rentré au séminaire poussé par ce grand désir de servir.
Alors, peut-être, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui écouteraient cette émission ? Parce que enfin, les jeunes ne sont peut-être pas familiers de Radio Présence ni de Vivante Église, mais ça leur arrive quand même d'écouter l'émission. Et là, peut-être que les parents vont leur dire « il faut que t'écoutes, c'est le père Pierre-Hervé Grosjean ». J'imagine que c'est une question aussi qu'on vous pose souvent. Comment encourager, susciter, accompagner, réveiller peut-être des grands désirs et des désirs vocationnels ?
En fait... Et tous les jeunes que je peux rencontrer me le disent et me le montrent, en témoignent. Il y a dans le cœur de nos jeunes une immense générosité et au fond un grand désir de se donner. La jeunesse, elle n'est pas faite pour le plaisir facile, elle est faite pour quelque chose d'absolu, elle a soif de l'absolu. Et bien sûr que toute la facilité est tentante dans tous les domaines, que ce soit la paresse dans le travail, que ce soit la facilité dans la vie affective, les petites histoires au lieu du grand amour, que ce soit la facilité dans les relations. Mais au fond, je crois que ça ne rend pas heureux. Et on a soif tous d'une joie vraie. Et donc je dis souvent aux jeunes, réfléchis, de quelle joie veux-tu être capable ? Quelle joie veux-tu connaître ? Et c'est à mon avis tout l'enjeu d'une éducation d'ailleurs, c'est de transmettre le goût d'une joie vraie, et d'une joie qui comble le cœur. Et que ça soit pour une question de vocation, que ça soit pour la façon de construire un amour, que ça soit pour la façon de penser son engagement dans la vie. Le but c'est de servir une joie vraie, de servir la joie des autres bien sûr, et de trouver cette joie soi-même en se donnant. Je crois que la joie vraie pour un homme ou une femme, c'est dans le don de soi, dans le don de sa vie.
Alors, c'est ce que vous faites, donc, puisque vous dites que vous rentrez au séminaire. Donc, vous êtes rentré donc, au séminaire de Saint-Sulpice, et puis après, donc, vous avez probablement, je ne sais pas si vous avez bifurqué, en tout cas, vous avez été ordonné pour le diocèse de Versailles, donc le 27 janvier 2004, par Mgr Éric Aumônier, qui est l'évêque actuel du diocèse de Versailles. Vous avez eu différentes charges, donc vous avez été vicaire à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Alors, peut-être il faut dire ce que c'est que la cathédrale Saint-Louis de Versailles, parce que c'est vrai que dans le paysage... de la France d'aujourd'hui, c'est presque un évêque, enfin c'est presque un évêché en forme de paroisse. C'est impressionnant.
Je crois que
c'est un biotope particulier quand même.
Dans le diocèse de Versailles, vous savez, dans le diocèse de Versailles, il y a le mot Versailles. Alors le mot Versailles peut assez vite correspondre à une certaine caricature qu'on se fait.
C'est pas du tout. Je parle pas de la caricature, mais je parle de la.
Mais le diocèse de Versailles, c'est les Yvelines en fait. Et les Yvelines, on a la chance d'avoir un diocèse d'une diversité immense. C'est aussi bien Mantes-la-Jolie que Versailles. Sartrouville que Rambouillet, et donc c'est des zones rurales, des zones urbaines, des banlieues difficiles, des zones semi-urbaines. Moi j'ai été vicaire au cœur même de Versailles, dans cette cathédrale qui est une des grandes paroisses de Versailles, mais il y en a plusieurs où effectivement les églises sont combles et avec énormément de jeunes et de familles. J'ai été vicaire ensuite à Carrières-sur-Seine et Houille,
voilà, j'allais vous le dire,
avec une population
visage,
vraiment
ouais.
différente, beaucoup plus diverse.
C'est la banlieue parisienne pour le coup. C'est...
Voilà. Et puis aujourd'hui à Saint-Cyr, je suis dans une ville, je suis curé d'une paroisse que j'aime beaucoup, qui a aussi une vraie diversité. C'est une ville qui était très populaire il y a encore 15 ans, qui aujourd'hui attire beaucoup de jeunes familles, de jeunes couples, de cadres qui quittent Paris à cause de la hausse de l'immobilier. Mais ça donne une paroisse assez diverse, en même temps très familiale, avec un esprit de famille très beau. Et ça, pour le prêtre que je suis, c'est un bonheur parce que il n'y a pas de tension, il n'y a pas de. J'ai la chance d'avoir une grande église qui est pleine chaque dimanche. Et je trouve que je mesure là combien l'église est d'abord une famille. Et l'église est belle quand elle montre ce visage d'une famille avec des membres très divers, mais qui sont unis par la même foi.
Alors, vous avez donc fondé ou cofondé le Padre Blog. C'est pareil pour ceux qui ne connaîtraient pas. Dites-nous un mot de ce blog et de son audience.
Padreblog.fr, c'est un blog qu'on a créé avec des amis prêtres. On est maintenant 6 prêtres à l'animer. L'idée, c'est quoi ? C'était d'offrir aux jeunes et aux moins jeunes une parole assez réactive de l'Église sur les sujets d'actualité. Souvent, on nous demandait, mais mon père, à cause de telle polémique, ou ce que le pape vient de dire, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Comment je peux l'expliquer à mes amis de classe ? Comment je peux l'expliquer au boulot ? Puisqu'on me demande de me justifier, parfois on nous caricature, on nous critique là-dessus. Et du coup, on s'est dit, mais autant offrir un lieu où on va essayer de réagir aux polémiques, on va essayer d'offrir cette parole de l'Église réactive et en même temps efficace et en même temps accessible. Voilà. Et assez vite, ça a pris de l'audience, de l'ampleur. À l'occasion, justement, à chaque fois qu'il y a une actualité un peu forte, les gens se disent, tiens, qu'est-ce qu'ils en pensent ou comment ils nous donnent des clés pour comprendre ce qui se passe ou ce qui se dit. Et puis ça a été aussi assez vite repéré par les journalistes eux-mêmes, en fait, qui ont parfois du mal à comprendre ce que dit l'Église ou qui ont manque de culture religieuse. Et là, le fait d'avoir une parole assez claire, assez franche, assez réactive, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on dit, hein, mais au moins, voilà, c'était une parole simple et ils se sont mis à relayer. Et c'est ce qui fait qu'on est parfois invité à témoigner plus largement sur des médias grand public. Ce qui est une façon pour nous, en fait, de répondre à l'invitation du pape François, hein, d'aller aux périphéries. Les médias, quels qu'ils soient, une radio, une télévision, un site internet, c'est l'occasion de parler à ceux qui mettent pas les pieds dans l'église, tout simplement.
Ce qui est le cas, par exemple, sur Radio Présence. Il y a des gens qui écoutent Radio Présence, mais qui mettent jamais les pieds à l'église.
Et c'est très précieux parce que l'église, elle s'adresse à tous, justement. L'église, elle veut pas rester entre soi, dans un entre-soi qui serait mortifère. Et le pape a tout à fait raison, et moi je suis vraiment dans cet esprit-là, de parler, de profiter de toutes les tribunes possibles pour apporter le message de l'Église. Sur les réseaux sociaux, à la radio ou à la télévision, je ne parle pas de ma vie perso, de mes opinions, je ne sais pas quoi. Je veux porter le message de l'Église. Je suis au service d'un message qui me dépasse, qui est le message de l'Église. Et c'est en tant que prêtre, vraiment, qu'on prend la parole sur ces sujets. Ça, c'est très important.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'audience du Padre Blog? On dit que vous avez 30 000 followers sur Twitter. Je ne sais pas des chiffres.
Je sais plus, c'est pas moi qui m'en occupe de la partie technique, donc il faudrait demander au père Pierre Amar qui s'occupe de ça très bien. Je sais plus quoi, il y a la page Facebook, je crois, à plus de 25 000 abonnés. Voilà. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement les
non,
chiffres.
Non, mais ça dit l'audience.
En tout cas, c'est de voir que d'une part, la parole de l'Église est attendue, bien plus qu'on ne le pense, je crois. Souvent, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui s'autocensurent, donc il faut oser y aller. Et puis. Voilà, que c'est aussi une façon, une belle façon d'évangéliser. Moi, je le prends vraiment comme une façon de participer à la mission de l'Église.
Alors, c'est justement une question que je voulais vous poser parce qu'on ne va pas refaire les récapitulatifs de vos positions que vous avez tenues dans les médias. On sait que donc, vous êtes beaucoup intervenu au moment de la loi sur le mariage pour tous, le mariage gay, sur d'autres sujets, la théorie du genre, le célibat des prêtres, récemment sur les affaires de pédophilie, particulièrement à l'occasion des affaires du diocèse de Lyon. Mais vous qui êtes habitué des plateaux grands médias, est-ce que vous avez souvenir de fois ou est-ce que ça vous arrive souvent où vous arrivez à engager une conversation, à être entendu, faire porter une parole, là où vous n'imagineriez pas que ça puisse être le cas.
Écoutez, le dernier sujet a été l'occasion d'une intervention, pour moi la pédophilie, là, a été l'occasion d'une intervention sur le plateau du Grand Journal sur Canal+. Et j'ai été assez, je pense qu'on peut la retrouver assez facilement sur Internet, en replay, et j'étais assez touché, assez bouleversé par les fruits de cette émission. C'était pas gagné d'avance, aller sur Canal+, c'est pas un plateau qui est réputé favorable à l'Église.
Et puis vous y êtes allé au cœur de la tourmente, c'est-à-dire
et c'était... on était en pleine tourmente, voilà. Hein, vraiment en pleine tourmente des affaires de Lyon et qui devenait nationale. Et je pense qu'il m'attendait au tournant. Mais en même temps, au lieu d'être comme souvent dans le déni ou dans la défense, sur la défensive. Je pense que je les ai surpris et du coup ça a vraiment ouvert un véritable échange profond parce que je leur ai montré que nous partagions leur colère et que nous partagions, nous étions d'abord du côté des victimes et que ça me permettait de dire le reste aussi. Que l'Église restait belle malgré ses fragilités, malgré ses blessures, qu'effectivement, derrière la violence des réactions médiatiques, moi je voulais voir aussi l'attente d'une société qui, finalement, c'est tout le paradoxe, continue d'attendre du prêtre beaucoup. C'est pour ça qu'elle est terriblement déçue quand le prêtre n'est pas à la hauteur. C'est qu'en fait, il y a encore une grande attente que le prêtre soit un homme bien. Vous voyez, dans l'inconscient collectif, le prêtre doit rester quelqu'un de bien.
Mais là, vous avez l'impression que sur le plateau de Canal, justement, c'est oui. Quelque part, c'est ça qui ressortait aussi au fur et à mesure.
Et c'est ce qui se voit quand on regarde. J'ai été très touché. J'ai reçu après des messages de remerciement de la part de victimes, de prêtres pédophiles, de la part aussi de prêtres et du cardinal lui-même de Lyon. Donc voilà, on a tout de suite trouvé une parole qui rassemble. Et ça, pour moi, c'était très important. Et j'ai pu en parler après avec les journalistes. Qui ont dit, vous avez dit ce qu'il fallait dire. Voilà. Et eux-mêmes étaient finalement heureux que l'Église puisse dire, porter cette parole à la fois de compassion et de vérité. Et c'était, pour eux, c'est important qu'on le dise. Voilà. Et ça aurait été terrible qu'on reste dans le déni.
Alors, donc, vous avez écrit un livre, c'est pas le premier, puisque vous en aviez écrit un autre, je cherche le titre, aidez-moi.
Aimer en vérité,
aux éditions Arthège. Et là, donc, c'est Catholique, engageons-nous. Voilà pourquoi, tout simplement, vous avez écrit ce livre, vous l'expliquez en introduction, vous citez, par exemple, vous reprenez cette citation du pape François, soyons des témoins décomplexés. Pourquoi vous l'avez écrit et à qui s'adresse-t-il ?
En fait, je l'ai écrit parce que je voulais répondre à la tentation du « à quoi bon ?». C'est Bernanos qui dit ça dans un de ses bouquins. « Mon démon à moi s'appelle « à quoi bon ?». Et cette tentation, c'est un peu un poison, le poison du découragement, qui peut être présent ou s'infiltrer dans le cœur et les intelligences de beaucoup de chrétiens, et même, je dirais, en allant plus loin, d'hommes et de femmes de bonne volonté, pas forcément chrétiens, mais qui veulent simplement servir le bien commun, qui veulent servir ce monde, qui veulent servir leurs frères. Et c'est vrai que devant les difficultés de ce monde, devant les blessures de cette société, devant parfois l'hostilité affichée d'une partie de la société pour ce que nous représentons, nous chrétiens, pour le message qui est le nôtre, eh bien certains peuvent être tentés par le découragement. Alors, qui se manifeste comment ? Ben, soit on se dilue parce qu'on a marre d'être à contre-courant, soit on se replie sur soi et une sorte d'exil intérieur, c'est-à-dire qu'on renonce à croire qu'on peut changer le monde. Voyez, et on en reste dans une plainte, tout est foutu, tout est pourri, la politique c'est pourri, les médias c'est pourri, l'enseignement, l'éducation c'est pourri. Voilà, une sorte de long gémissement qui est aussi un long renoncement, quoi. Et ça me paraissait terrible. Je ne voulais pas que les catholiques qui sont aujourd'hui effectivement en minorité dans ce pays, des catholiques engagés qui se retrouvent minoritaires dans ce pays bien souvent, puissent perdre foi en leur capacité à transformer ce monde. L'histoire, elle ne se fait pas avec des majorités. L'histoire, elle se fait avec des minorités les plus convaincues. C'est Benoît XVI qui dit ça, et l'avenir appartient aux minorités créatives. Voilà. Et donc, je voulais encourager, c'est un livre qui veut encourager. Ce n'est pas une leçon de morale, c'est pas une leçon... parce que beaucoup de chrétiens sont déjà engagés, font des choses extraordinaires, avec beaucoup de générosité, sur beaucoup de sujets. Mais je voulais leur... Voilà, être à côté d'eux, je pense que c'est le rôle du prêtre au fond. C'est pas de s'engager à la place des laïcs, les laïcs ont leur propre mission au cœur du monde. Mais nous, prêtres, on est là pour être à côté, pour encourager, pour accompagner, pour consoler parfois, parce qu'on se prend des coups quand on s'engage, parce que parfois c'est dur, parce qu'on est tenté par le découragement, mais pour redonner foi dans la fécondité de tous ces engagements, qu'ils soient associatifs, politiques, familiaux, conjugaux, professionnels, au sein de l'Église, ou au sein de la société, eh bien, moi je crois que toute vie donnée portera du fruit.
On va faire une première pause musicale et puis après on vous retrouve, après on plongera dans le cœur de votre ouvrage. Voilà, je rappelle, nous sommes avec l'abbé Grosjean, Pierre Hervé Grosjean, auteur donc de Catholique Engageons-nous aux éditions Arthège. Thank you.
présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin, donc le plaidoyer pour l'engagement de l'abbé Grosjean, le père Pierre-Hervé Grosjean, curé donc de Saint-Cyr-l'École, auteur de Catholique Engageons-nous aux éditions Artege. Alors, mon père, dans votre ouvrage, donc évidemment à lire, hein, Catholique Engageons-nous, vous, après une bonne introduction, en citant largement, entre autres, le pape François et son incitation répétée à l'envie à s'engager et à servir, vous nous parlez d'une double révolution. Alors, vous dites qu'aujourd'hui, nous vivons une révolution spirituelle, une révolution éthique et culturelle. Il y en a certains qui connaissent la musique, j'ai envie de dire, mais ça fait toujours bien de l'entendre et de le rappeler. Cette révolution culturelle, quelle est-elle? À quoi ressemble cette France d'aujourd'hui et pourquoi faut-il s'y engager plus que jamais?
La France, effectivement, connaît une double révolution. La première, c'est, comme vous le disiez, c'est la révolution spirituelle qui consiste à voir un christianisme tout simplement qui s'effondre. Moi, je ne sais pas faire de langue de bois, hein, et je crois qu'il faut regarder le réel en face. La moyenne d'âge du clergé est juste... catastrophique. L'âge médian du clergé en France, c'est 75 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un enfant sur trois qui est baptisé. Ça ne veut pas dire que je manque d'espérance. Je ne serais pas prêtre si je manquais d'espérance. Et il y a des signes d'espérance extraordinaires et une fidélité de beaucoup de catholiques magnifique. Mais nous vivons cette situation assez inédite d'un vieux pays chrétien qu'est la France qui devient un pays de mission. Parce que la population française, dans quelques années, ne sera majoritairement plus catholique. Donc on est vraiment dans un pays de mission au sens propre du terme. Un pays qui n'est plus catholique dans sa population, majoritairement. Ça ne veut pas dire que les catholiques sont une minorité parmi d'autres. Parce que, j'aime pas d'ailleurs le discours victimaire qui réclame pour les cathos les mêmes droits que les autres minorités. Parce qu'on n'est pas une minorité parmi d'autres. La France reste un pays chrétien par ses racines, par son histoire, par sa culture. On ne raye pas 1500 ans de christianisme comme ça. Mais nous sommes devenus un pays de mission. Voilà. Ça, c'est une première...
Vous allez plus loin, en fait. Vous avez une expression. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas la seule à l'utiliser, mais vous parlez d'un désert spirituel.
Eh bien, écoutez, il suffit de traverser la France. Bien sûr, quand la pratique tombe à 2%, taux de pratique religieuse, 2%, il suffit de rentrer dans... À part quelques pôles très vivants... Où il y a encore une pratique solide, combien d'églises vides, voyez, combien de oui, une sorte de désert spirituel et en même temps, je le dis encore une fois, non pas pour me désespérer, c'est pas le ton du bouquin, mais parce que c'est bien au cœur du désert que naît la soif et donc cette situation de minorité est plutôt un appel et pas un sujet de lamentation. Je constate le réel il s'impose à moi. Je vais pas râler dessus, je le constate. Voilà le terrain de mission qui m'est offert, sur lequel le Seigneur m'appelle. Et la révolution culturelle qui complète cela et qui fait qu'on est doublement minoritaire, c'est que la révolution libertaire qui a culminé avec mai 68 a abîmé, fragilisé profondément l'idée même d'un bien commun. Pourquoi ? Parce que nous avions jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques décennies, avec nos frères croyants et non-croyants, enfin entre croyants et non-croyants, nous avions malgré tout une sorte de consensus éthique, de morale commune. On mettait derrière les mêmes mots, mariage, famille, fin de vie, début de vie, les mêmes réalités en fait. Aujourd'hui, tout ça a explosé parce que on est passé d'une vérité, de l'idée d'une vérité universelle, donc d'un bien, véritable pour tous, d'un bien commun qu'on pouvait construire ensemble, croyants et non-croyants, à l'idée simplement d'une sincérité individuelle. Pour beaucoup, la valeur ultime aujourd'hui, c'est le désir personnel, voilà, le désir sincère. À partir du moment où je suis sincère, vous n'avez pas le droit de juger mes désirs, et la société doit m'accorder ce que je réclame. Et du coup, ça fragilise toute idée du bien commun. Qu'est-ce qui est bien pour tous? Mais on sait plus. On voit bien qu'un des enjeux de l'engagement des chrétiens dans la société, c'est de reconstruire justement des repères communs, des valeurs communes sur lesquelles on peut se retrouver croyant et non croyant. Qu'est-ce qui est le vrai bien de l'homme? Qu'est-ce qui est la Voilà, qu'est-ce qu'est la vérité sur l'homme et sur la femme, sur la famille, sur la fin de vie, sur le début de la vie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est le bien à servir? Et donc ce que je note, c'est que ces deux révolutions font que, et comme catholique engagé, et comme catholique désirant servir un bien commun, eh bien je vais me retrouver doublement minoritaire. Ça, c'est la situation, en particulier la génération qui vient. Alors, face à ça, la tentation est grande, je le disais tout à l'heure, de se décourager.
Alors justement, excusez-moi, on y viendra juste après. J'avais deux questions. Une sur cette révolution spirituelle. Une question un peu provoque, hein, pardon, mais vous comprendrez ce qu'il y a derrière. Mais est-ce que même à Versailles, on a conscience que la France est devenue un pays de mission? Ou est-ce qu'il y a des poches? Est-ce qu'il y a entre guillemets des zones? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une partie encore de l'Église, du clergé, qui vit dans l'idée que la France n'est pas tout à fait un pays de mission?
À Versailles, à Paris, au cœur même de Toulouse, au cœur même des très grosses villes de France, les églises sont pleines. Donc effectivement, si je ne vois que ça, je peux me faire illusion. Bon, mais il suffit de faire 5 kilomètres. Vous venez à Saint-Cyr-l'École, ma paroisse, l'église est pleine, c'est sûr. Il y a 1000 paroissiens. Bon, mais il y a 20 000 habitants. Donc c'est 1 sur 20. Vous voyez ? Et donc c'est ça la vérité. C'est pas parce que mon église est pleine que je me réjouis. C'est que je pense aux 19 000 qui ne sont pas là. Et que le grand danger, mais ça le pape François nous remue en permanence, le grand danger ce serait de me contenter de ceux qui sont là. Mais moi je suis curé de la ville. Donc les 19 000 autres me sont aussi confiés par le Seigneur. Et je dis à mes paroissiens, nous ne pouvons pas nous reposer simplement parce que tout se passe bien, la vie paroissiale est sympathique et parce qu'on est nombreux. Tant que nos frères et sœurs habitant la même ville que nous ne savent pas que le Christ est mort pour eux, ne se savent pas aimer de Jésus, ne se savent pas pardonner, ne se savent pas sauver. Donc c'est vraiment cet élan missionnaire qui est d'autant plus nécessaire à donner et à redonner à une minorité. Parce qu'une minorité, dit le pape François, qui vit sur elle-même, centrée sur elle-même, elle meurt. Oui. Ce n'est qu'en étant missionnaire qu'une paroisse va grandir, quoi, qu'une communauté va grandir.
L'autre question, c'est sur cette révolution sociale. Vous dites donc, vous parlez de cet ultralibéralisme économique et éthique qui a fait cette révolution. Est-ce que vous, à la faveur, par exemple, de vos interventions télé et autres, vous trouvez plus d'amis de l'homme, d'une certaine manière, qu'on ne le croit? Ou est-ce que les chrétiens et l'anthropologie qu'ils défendent ou en laquelle ils croient sont un peu les derniers des Mohicans aussi à défendre une certaine vision de l'homme?
Je pense qu'on est quand même allé très loin dans la déconstruction de cette anthropologie qu'on avait en commun, croyants et non-croyants, et qu'il faudra du temps pour former les consciences à nouveau, pour éveiller les consciences à cette anthropologie, à cette dignité de la personne humaine, à cette vérité sur l'homme. Et en même temps, on est allé tellement loin que la génération qui vient réclame des repères à nouveau. On est les orphelins de 68, que voulez-vous. Et je vois bien combien de jeunes, pas chrétiens, mais ont envie de retrouver un peu de bon sens, ont envie de retrouver des repères stables sur lesquels ils peuvent se construire. Parce que ériger le désir individuel comme valeur absolue, c'est signe de fragilité, parce que le désir, justement, il est fragile, il est fluctuant. Et les gens, ils veulent, surtout en période de crise, ils veulent des repères stables. Regardez comment la question de l'identité revient dans la campagne présidentielle. C'est intéressant. Pourquoi ? Parce que quand vous ne savez pas qui vous êtes fragile. Du coup, vous risquez de vous renfermer. Vous avez du mal à accueillir l'autre. Vous avez du mal à vivre ensemble. Vous voyez, quand vous êtes fragile sur vos bases. Donc c'est intéressant de voir que les Français sont très sensibles à cette question de l'identité. Ont besoin de se reposer la question de qui sommes-nous ? À quoi croyons-nous ? Qu'est-ce qui fait qu'on est Français ? Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble ? Qu'est-ce qui fait quelle valeur commune on a justement au-delà de nos différences de foi, quelle histoire commune, de quelle culture commune on est les héritiers.
Mais je vous repose ma question sur les plateaux télé. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que comment dire, j'allais dire vos adversaires, non, enfin les journalistes
mais
ou les autres
télé, c'est entendent pas la, ou c'est pas. Pas c'est pas la France qu'on trouve sur le plateau télé. On trouve les journalistes. Ils ne sont pas tous représentatifs des Français. Mais je crois qu'au-delà du petit milieu médiatique parisien, il y a la France, les Français, quelle que soit encore une fois leur religion ou leur absence de religion, aujourd'hui sont en quête de repères forts, stables, solides, de repères refuges, de valeurs refuges, quoi. Voilà, sur lesquels ils vont pouvoir se construire et transmettre à leurs enfants. On a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant « Moi, je veux baptiser mon enfant parce que je veux pour lui des valeurs. » Alors, on lui explique que le baptême, c'est bien plus que ça. C'est Jésus-Christ, le baptême. Mais on comprend ce que ça veut dire derrière. Voyez, il y a un besoin de transmission, de retrouver quelque chose à transmettre. Et les attentats qu'on a vécus, absolument terribles, le fait que notre pays soit un pays attaqué désormais, un pays en guerre, renforce cela. Parce que ce qui fait la force d'un peuple, c'est pas son armée simplement, c'est son âme, c'est son histoire, sa culture. Et d'ailleurs, c'est bien ça qu'ils attaquent, les barbares d'en face.
Un sujet d'ailleurs, vous le rappelez dans votre ouvrage, hein, vous dites que les attentats donc, du 13 novembre 2015, quand ils ont été revendiqués, la revendication était la suivante. Pourquoi Paris, capitale qui porte la bannière de la croix en Europe ?
Bien sûr, et depuis nous avons eu ces événements terribles de juillet. 14 juillet, on attaque la fête symbolique pour la République française. Et quelques jours plus tard, on vient, ces barbares viennent assassiner un prêtre au cœur de la messe. Enfin, vous voyez, c'est l'identité de la France, la République et l'Église. Vraiment, eux ne se trompent pas, vous voyez, sur ce que nous sommes. Ils savent très bien ce qu'ils visent. Et c'est pour ça que c'est uniquement en se réappropriant ce que nous sommes. Notre histoire, notre culture, nos racines, notre foi, qu'on sera fort face à cette barbarie.
Alors vous dites que donc, vous avez commencé à le dire, il y a deux tentations face à ce désert spirituel, face à cette mission immense hein, qui s'ouvre pour les chrétiens en France, qui a commencé d'une certaine manière. Vous dites donc qu'il y a la tentation, entre autres, de la dilution. Alors cette tentation, est-ce que vous pouvez l'expliciter ? Je pense qu'on peut la deviner, mais la redire.
La tentation de la dilution, c'est finalement de... Vous savez, c'est quand vous êtes épuisé d'être à contre-courant en permanence, à devoir vous justifier en permanence auprès de vos amis, de vos collègues de travail, etc., de tout ce qui est à contre-courant dans la foi catholique, de tout ce qui n'est plus compris aujourd'hui, de tout ce qui suscite parfois l'hostilité. Et du coup, vous pouvez tenter de gommer un peu, en fait, de votre foi, de votre mode de vie, tout ce qui vous met à contre-courant, tout ce qui est un signe de contradiction.
Est-ce que vous avez des exemples ? Vous parleriez de quoi dans ces cas-là ? Vous citeriez quoi ?
Mais ça peut être dans l'enseignement catholique, par exemple, le fait pour ne pas gêner, de mettre un peu le frein sur l'enseignement de la foi catholique. On a pu connaître ça dans les années précédentes. Ça peut être de vouloir le jeune étudiant qui part en week-end d'étudiant et puis c'est le seul à vouloir aller à la messe. Et puis parce que les autres lui disent que tu nous embêtes ou je sais pas quoi, bon ben va s'effacer en disant, ou alors c'est peut-être le collègue de travail, on attaque le pape ou on dénigre l'église à la cafétéria à midi et puis vous êtes le seul chrétien du groupe et puis vous vous taisez en fait parce que c'est compliqué d'assumer de... Vous voyez, donc je comprends tout à fait cette tentation de dire en fait d'imaginer un christianisme qui ne serait plus un signe de contradiction pour le monde, qui serait plus du sel mais du sucre, quoi. Un christianisme light qui serait enfin accepté par le monde, parce que déclaré acceptable, quoi. Christianisme modéré, comme réclament les médias. C'est absurde. Le Christ lui-même est un signe de contradiction. Donc on ne peut pas rêver d'être autre chose. Mais je comprends tout à fait que ça soit épuisant parfois et que ça demande même un véritable héroïsme hein, d'être... témoin à contre-courant en permanence.
Vous le dites, oui, vous dites être un héros, c'est fatigant. Et puis vous avez une phrase, enfin, moi j'ai trouvé, enfin, elle est, la formule est simple, hein, mais j'ai trouvé belle, qui dit aussi votre cœur de pasteur, il y a beaucoup de héros cachés parmi nous et ces héros sont parfois fatigués, surtout d'être incompris. Voilà, il y a beaucoup de héros, vous en connaissez, vous en croyez.
Oui, moi je suis bouleversé justement par le courage de ces jeunes qui, dans leur classe, affrontent parfois le prof qui a dit n'importe quoi sur l'église, qui affrontent le dénigrement ou les moqueries de leurs camarades parce qu'ils s'assument comme chrétiens, parce qu'ils défendent le pape, parce qu'ils défendent le magistère, parce que de voir des chrétiens qui, dans leur quartier, osent inviter ou témoigner de leur foi, de voir au boulot des gens qui assument leur foi. Et vous savez, bien sûr qu'on parfois on nous a même appris à nous auto-censurer, quoi, parce que, je sais pas quoi, une sorte de complexe de la majorité, quand on était, comme si on était encore une église puissante qui pouvait écraser les autres, mais c'est plus du tout le cas. Vous voyez, la fragilité de l'église doit nous rendre d'autant plus libres aujourd'hui. On peut pas nous soupçonner de vouloir imposer quoi que ce soit. Et donc raison de plus pour témoigner très librement, sans complexe, de notre foi. Mais c'est vrai que ça peut être difficile parfois. Parce que, en apparence en tout cas, ce monde semble parfois hostile ou indifférent. Et certains médias ou certains influenceurs aiment dénigrer ce qui nous est sacré. Mais derrière cela, je crois vraiment en fait qu'on est attendu. Que la parole d'un chrétien qui est authentique sera toujours respectée. Que les gens cherchent en fait une espérance qui ne déçoit pas. Et que le message que nous portons peut continuer à combler les cœurs.
Alors l'autre tentation dont vous parlez, c'est la tentation du repli. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que, à votre avis, ça guette une partie de l'Église de France et des chrétiens de France?
Oui,
et
si ça, ça peut aussi guetter les chrétiens. C'est une tentation qui irait un peu à l'opposé. C'est la tentation du hérisson. C'est-à-dire quand on vous critique en permanence, quand on vous attaque, eh bien vous pouvez vous mettre en boule et sortir les pointes. C'est-à-dire que une sorte de de repli sur soi, de repli entre soi. Avec une sorte de désespérance sur le monde, tout est pourri, tout est foutu, et bien tant pis pour eux, ils vont se perdre, et nous on se retire sur les hauteurs, quoi. J'appelle ça la mentalité de citadelle assiégée.
Mais vous la sentez dans l'Église, cette mentalité?
Oui, on peut la sentir parfois, et je veux dire, je pense qu'elle nous traverse tous, au fond. Une sorte de découragement les déceptions que nous cause la politique, les déceptions que nous cause... parfois le dénigrement médiatique dont l'Église fait l'objet, une déception sur la dureté de ce monde, et on se dit, mais Seigneur, jusqu'où vont-ils continuer à abîmer ce monde, à abîmer la famille, à abîmer à ne pas respecter la vie, jusqu'où, combien de mensonges, je sens beaucoup de gens, vous voyez, qui souffrent de cette déconstruction, de tout ce qu'on casse, quoi. Vous voyez, de la casse sociale, sociétale, familiale, et puis de toutes nos épreuves. On a chacun nos épreuves. Et donc, on peut se décourager. On peut se décourager et se replier. C'est la tentation du ghetto, parce qu'on aura moins mal si on reste entre nous, entre gens qui pensent comme nous. Mais c'est intéressant, parce que ça veut dire que, de façon opposée, mais tout aussi réelle, c'est une forme de renoncement. Je renonce à vouloir changer le monde, je renonce à vouloir apporter au monde ce que je peux lui apporter, je renonce à croire que je peux transformer ce monde.
On va faire une deuxième pause musicale. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Père Pierre-Hervé Grosjean, Catholique, engageons-nous, aux éditions Artege. Et puis on vous retrouve pour finir cette émission et peut-être voir ça un tout petit peu plus dans le détail. C'est-à-dire que vous dites à un moment dans votre ouvrage, il faut viser, il faut pas perdre de vue le sommet, il faut avoir le goût des sommets. Alors quel est ce sommet et comment le vivre en fait? Thank you.
Emmanuel Pella.
Voilà, donc ce matin, cette émission, le plaidoyer pour l'engagement de l'abbé Grosjean. Je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, que l'abbé Grosjean est curé de Saint-Cyr, l'école, dans le diocèse de Versailles, et auteur donc d'un ouvrage qui s'appelle « Catholique, engageons-nous » aux éditions Arthège. Voilà, blogueur connu et habitué en partie des plateaux télé qui ont fait, entre autres, sa notoriété et... Enfin, pas, ça n'explique pas le succès de vos ouvrages, mais ça a certainement un petit peu contribué. Alors, je disais avant cette pause que vous dites dans votre introduction qu'il ne faut pas perdre l'habitude de viser les sommets. Alors, au milieu de ce chemin de crête que vous dessinez entre... Alors, vous n'êtes pas le seul, hein, mais vous avez le mérite, en tout cas, de le dire haut et fort et d'accompagner comme pasteur tout ce peuple qui est tenté donc soit par la dilution, soit par le repli sur soi. Quel est le sommet là qu'on vise? C'est quoi, le sommet à viser dans les 5, 10, 15 prochaines années pour un chrétien au quotidien?
Eh bien, c'est de continuer à croire que ce que nous sommes, le message que nous portons, l'évangile, est capable de transformer profondément ce monde. C'est Sainte Catherine de Sienne qui disait « Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. » Jean-Paul II aimait beaucoup reprendre cette phrase. Je crois que c'est ça, de croire en fait que tous nos engagements que nous prenons, non pas pour défendre nos intérêts particuliers quand les catholiques s'engagent dans la société, dans telle ou telle association, sur tous les sujets, la précarité, l'écologie, la famille, le respect de la vie, tous les sujets. Quand les catholiques s'engagent dans la société, c'est pas pour défendre leurs propres intérêts. On fait pas du communautarisme, nous. On défend le bien commun. C'est-à-dire les conditions de vie qui permettent au plus grand nombre de s'accomplir dans leur vocation d'homme ou de femme. Y compris dans la dimension spirituelle, d'ailleurs, ultimement, de cette vocation. En fait, on essaye de faire grandir ceux qui nous sont confiés. Et je crois que l'enjeu, c'est de croire que nous pouvons continuer à servir ce bien commun, quoi qu'il en soit. Et que si nous enracinons nos engagements, quels qu'ils soient, associatifs, politiques, professionnels ou autres, dans vraiment cette amitié avec Jésus, ces engagements-là seront féconds. Voilà. Trop souvent, nous nous auto-censurons où nous ne croyons pas à la fécondité de nos engagements. Parce que nous voyons les échecs apparents, parce que nous voyons la situation difficile, parce que nous voyons l'hostilité de ceux d'en face. Et donc nous doutons.
Vous avez raison que c'est pas facile pour tout.
Non, mais je le dis, je suis très réaliste. Je ne vous demande pas d'avoir un regard de bisounours. Hein. Je suis très réaliste sur le constat. Mais Jésus nous le dit dans l'évangile, dans le chapitre 17 de Saint Jean. Ils ne sont pas du monde, ils sont dans le monde parce que je les ai envoyés. Donc, l'identité du chrétien, c'est d'être envoyé dans ce monde. Je suis très réaliste sur les blessures de ce monde, sur tout ce qu'il y a dans ce monde, mais voilà, c'est ce monde-là que Jésus me confie. Donc, je ne peux pas m'en décourager. Je ne peux pas m'en désespérer. Et ce monde-là, cette petite part de monde qui m'est confiée, eh bien, j'y suis comme envoyé, en mission. Et comme dit le pape François, la mission pour un chrétien, ce n'est pas un vêtement qu'on peut enlever ou remettre à sa guise, c'est son identité. Et donc je dois vouloir transformer cette petite part de monde qui m'est confiée. Je dois croire que ce que je suis, ce que je porte, ce que je représente, ce que j'annonce est capable de transformer ce monde qui m'est confié, de sauver ce monde qui m'est confié.
Alors vous prenez un exemple que j'ai trouvé frappant, c'est que vous posez d'une certaine manière la question directement à l'auditeur, mais enfin au lecteur, et donc là aujourd'hui aux auditeurs, en disant voilà, est-ce que toi, lecteur, tu as conscience qu'en fait c'est Jésus lui-même qui te missionne dans ta vie, et si tu te posais la question le matin en te rasant justement, ta journée serait complètement différente. Alors lancez, pour ceux qui ne liraient pas votre ouvrage, cette explicité.
C'est vrai que je crois que ça changerait profondément notre regard sur le monde que nous côtoyons, de reprendre conscience, pourquoi pas dans la prière du matin, ou avant d'entrer dans la salle de classe, ou avant d'entrer dans notre bureau de travail, de reprendre conscience que les gens que je vais croiser, si je les croise, c'est pas par hasard. Si je travaille avec eux, c'est pas par hasard. Si je suis dans leur classe, c'est pas par hasard. C'est parce qu'ils me sont confiés. Si je suis là, c'est parce que j'ai été envoyé. Et donc, je peux pas être indifférent au salut de ces gens-là. Vous savez, tous nos engagements, en fait, prennent place dans l'histoire qui nous dépasse, de cet immense affrontement entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre la vie et la mort. Cet immense affrontement qui court de toute l'histoire de l'humanité, qui traverse toute l'histoire de l'humanité depuis la chute d'Adam jusqu'au retour du Christ en gloire et qui traverse notre propre histoire. Si je m'engage, c'est parce que je veux participer à la victoire du bien sur le mal. Je veux participer à la victoire de l'amour, tout simplement, dans tous les cœurs. Cette victoire, elle est acquise, il n'y a pas de suspense. Jésus est vainqueur depuis le vendredi saint et le matin de Pâques. Mais je ne veux pas être gagnant tout seul avec lui. Je veux que cette victoire, elle participe, elle soit partagée avec tous. Elle puisse profiter à tous. Je veux que mon collègue de travail, eh bien Jésus puisse être victorieux en lui de tout le mal qui a pu le blesser. Je veux que mes camarades de classe soient entraînés dans cette victoire de l'amour, de la miséricorde sur le péché, etc. Et donc, je veux aussi croire que mon petit engagement, aussi modeste soit-il, simplement parce que j'essaie d'être fidèle là où Dieu m'a planté, là où Dieu m'a mis, eh bien, cet engagement, vous voyez, participe à cette victoire du Christ en tous. Et c'est ça qui va me donner aussi une grande paix intérieure dans tous mes engagements, au-delà de la réussite ou de l'échec apparent. Voyez. C'est que je sais que tout est entre les mains de Dieu et c'est lui qui assurera la fécondité à tout ça. Et c'est lui qui touchera les cœurs à travers mon témoignage. Et c'est lui qui touchera, qui transformera les vies à travers la parole que je peux transmettre. Il a juste besoin d'instruments. Et je peux pas déserter, il a besoin de moi.
Alors, je peux pas déserter, c'est évidemment enfin, la conséquence du titre de votre ouvrage. Pour finir cette émission, en fait, vous citez, pour vous, il y a certains domaines clés, même si enfin, ils sont pas exhaustifs, où vous appelez, en fait, vous exhortez par ce livre, et puis on sait que vous battez la campagne en France, entre autres, vous êtes donc venu à Toulouse pour ça, on imagine. Il y a des lieux où il faudrait être par excellence, vous citez l'enseignement, les médias, la culture, la politique, et vous dites même aussi l'Église, alors vous n'êtes peut-être pas à nous citer chacun. Mais quand on vous lit et quand on est journaliste et qu'on a fréquenté quelques médias généralistes, on se dit les médias, il est quand même les médias, la politique, beaucoup peuvent se dire aujourd'hui, il est quand même sacrément gonflé.
Mais alors, pourquoi ? Parce que ce sont des lieux de transmission. C'est-à-dire comment je vais changer la société, comment je vais transformer ce monde, ben, en étant là où se transmet la culture, où se transmettent les idées, où se transmettent la conception qu'on veut promouvoir de l'homme et de la femme. Je crois qu'il faut reprendre conscience de l'importance de ces lieux de transmission. Plutôt que de se plaindre du niveau de l'enseignement, de l'inculture religieuse de beaucoup de journalistes, ou de la faiblesse de certains médias, ou de l'orientation de certains médias, plutôt que de se plaindre de la fragilité de nos politiques, ou que ça ne va pas assez vite, pas assez loin comme on veut, etc., eh bien, que les chrétiens sortent de la plainte et passent à l'action. C'est ce que dit le pape François, on dit. Il disait ça au GMJ, aux jeunes, cet été, il disait « Arrêtez de rester sur le banc des remplaçants. La partie est en train de se jouer sans vous, et si vous n'y allez pas, d'autres iront, et pas forcément les meilleurs. » Et donc, sortez du balcon, descendez du balcon, sortez du banc des remplaçants, entrer dans le jeu. En fait, c'est ça le pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous ceux qui liront ce bouquin, quelle que soit notre vocation, quelle que soit notre situation, notre place dans cette société, de la plus modeste à la plus exposée, il s'agit en fait de pas rester spectateur. Je peux transformer la vie de ceux qui m'entourent. Je peux faire grandir ceux qui m'entourent. Je peux vraiment reprendre conscience que je suis envoyé au service de ceux qui m'entourent pour que cette petite part de monde qui m'est confiée aille mieux demain par rapport à aujourd'hui. Ça, c'est ma mission de chrétien dans le monde, voyez ? Et je crois profondément que toute vie, même la plus modeste, est précieuse dès lors qu'elle est donnée. Dès lors qu'elle est vécue justement dans cet esprit de service et d'engagement. Toute vie est infiniment précieuse et toute vie portera du fruit et aura une fécondité qu'on découvrira au ciel peut-être, mais qui sera, à mon avis, qui nous étonnera. Parce que le bon Dieu met sa joie à faire de grandes choses à travers les pauvres que nous sommes, dès lors que nous acceptons de nous donner.
Voilà, et ben merci beaucoup, Père Pierre-Hervé Grosjean. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La parole d'un père, l'exhortation d'un père catholique, engageons-nous, aux éditions Artege. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Merci.
Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.